Dans beaucoup de ports de la Méditerranée, à Istanbul, à Naples, à Gênes, à Barcelone, existent au centre de la ville, non loin du port, des quartiers généralement anciens ou historiques, qui sont les réceptacles des populations en transfert ou à la recherche d'une intégration. Et partout existe un débat sur la gestion et l'avenir de ces quartiers. À Marseille aujourd'hui, ce quartier, c'est le quartier de Belzunce.
Si Belzunce doit sa réputation nationale à Bouga et son Belzunce Breakdown, il doit son nom à Monseigneur Henri-François-Xavier de Belzunce, évêque du XVIIIe siècle, resté célèbre pour son dévouement lors de la peste de Marseille.
Paris vient d'ici, tu contestes, prépare ton test à manga. Belzunce, fleuron des quartiers phocéens, coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on s'est vu sur les cafards comme le bégon.
D'où sort d'une ronde, Belzunce Breakdown.
Oh mais t'as pas, dis-moi pas non.
Nous entrons dans Belzunce, cosmopolite, marchand, bruyant, migrant, et on ne peut plus vivre. Vous êtes bien calé sur les 3-8. Voici une nouvelle création de la grenouille, Belzunce en visage. Belzunce en visage est le nom d'une exposition proposée depuis le printemps dernier par le Théâtre de l'Œuvre, théâtre aux vocations artistiques et sociales, établi au 1er rue Mission de France. Un théâtre vieux de 8 décennies qui a retrouvé son dynamisme d'antan aujourd'hui. L'exposition, conçue et dirigée par Sarah Schreiber, coordinatrice du lieu, met en lumière des récits de vie d'habitants de Belzunce. Des anonymes, militants, artistes, commerçants. Certains sont nés dans le labyrinthe de Belzunce, d'autres viennent de s'y fondre après un chemin tortueux. Tous participent au patrimoine vivant du quartier. L'exposition Belzunce en visage articule des textes à des photos-portraits. Nous proposons de mettre en nom de ces récits en révélant leur voix. Nous lançons notre série avec Vincent Baird de Mander, considéré comme le plus grand mandoliniste français. Il se produit aujourd'hui dans le monde entier aux côtés de musiciens comme Ricardo Sandoval, Roberto Alagna, Nana Mouskouri ou Agnès Jaoui. Des compositeurs de légende comme Claude Bolling ou Vladimir Kosma lui ont dédié des concertos. Vincent Baird de Mander est né à Toulouse. Après une enfance dans la capitale occitane, il effectue ses études à Paris. Puis réalise son rêve, s'installer à Marseille. Il vit aujourd'hui à Belzunce, un quartier dont il parle avec autant de passion que de sa mandoline. Nous nous sommes retrouvés sur son balcon, qui surplombe la place René Sarville, dos à l'Alcazar, pour évoquer son amour de Belzunce. Mais commençons par répondre à une première question. Pourquoi avoir choisi Marseille ?
Marseille, pourquoi ? Déjà, il y a le fantasme de cette grande ville populaire du Sud. J'ai quelque chose avec les grandes villes populaires. J'aime leur ambiance, j'aime ce qui s'y passe et j'aime ce métissage. Et quand je suis arrivé à Marseille, avant les années 2000, le premier quartier que j'ai vu, c'est Belzunce, puisque j'arrivais par la gare. Et donc, automatiquement, on passe par Belzunce si on veut aller au Vieux-Port. Et c'était un Belzunce très différent d'aujourd'hui. Un Belzunce un peu laissé à l'abandon, le Belzunce que les gens de Marseille ont connu dans les années 80-90, il était encore là, il n'y avait pas l'Alcazar, il n'y avait pas le tram, les rues étaient défoncées, je me rappelle la rue Tubano, très animée, avec beaucoup de prostituées, tout ça, mais c'est pourtant là qu'il y avait les mandolines. Depuis 1930, Il y avait un orchestre de mandoline qui s'était installé au Théâtre de l'Œuvre. Pourquoi ? Parce que Marseille était une ville qui avait accueilli des centaines, voire des milliers d'Italiens, d'immigrés, de Napolitains, de Siciliens. La culture de l'Italie du Sud, et donc la mandoline était très présente à Marseille. Et ce fameux Laurent Fantozzi, qui était le grand mandoliniste, un peu la pierre angulaire, la clé de voûte du monde de la mandoline dans les années 1900-1920, à tel point, et ça c'est un fait historique, ça s'est jamais revu dans toute l'histoire de la musique, le maire de Marseille a décidé de créer en 1920, Flessière, qui s'appelait le maire, a décidé de créer une classe de mandoline. Donc c'était un peu une révolution. Il y avait ce type qui était aussi lui-même issu d'un milieu populaire, puisqu'en fait il était né dans la province de Naples. La musique l'avait anobli, il était devenu un notable de la ville de Marseille, et il avait créé cette classe de mandoline au conservatoire et une école de mandoline moderne et populaire ici à Belzunce. Il y avait une revue à cette époque-là, dans les années 90, entre 90 et 2000, qui s'appelait Le Plectre. Le Plectre, c'est le petit morceau qui nous sert à pincer les cordes de la mandoline, le médiator, comme disent les guitaristes électriques. Et dans ce journal Le Plectre, chaque mois, il y avait, je dirais, un aperçu sur un orchestre de mandoline, ce qui pouvait être en Alsace, en Bretagne. Et il y en avait eu un sur Marseille. Et donc, effectivement, j'avais pris les contacts, et me voilà qui débarque, qui demande... Je me rappelle, mon premier contact avec les Marseillais, moi j'avais 18 piges, j'arrive à Marseille, j'ai dit excusez-moi, je cherche la rue Tubano, il y a un type qui me dit ah, la rue Tubano, pourquoi vous allez à la rue Tubano, jeune homme et tout. Je dis il y a un orchestre de mandoline, ah, c'est compliqué d'aller à la rue Tubano, d'ici je vous y mène. Et le mec il m'a amené de la gare, c'était un ancien, il m'a amené de la gare jusqu'à la rue Tubano. Et j'ai découvert, en fait, je rentre dans la salle où il y avait des mandolinistes qui avaient la moyenne d'âge, ça devait être 75 ans, 80 quoi. Et qui me voit comme ça débarquer, un jeune, qu'est-ce que vous faites là ? Et puis, à la fin de la répétition, il y en a un qui s'approche de moi et qui me dit, vous savez, ici, on est un peu âgé, ceci, cela, mais je vous donne le numéro de téléphone d'un monsieur qui s'appelle Paul Tagliamonte, appelez-le et allez le voir, il joue très bien de la mandoline. En fait, ce Paul Tagliamonte, qui est devenu un grand ami à moi, c'est un fabricant de bateaux, de pointus marseillais, qui a son chantier naval au Faro, et dont la passion est de faire de la mandoline. Donc le matin, de 6h du matin à midi, il fait des bateaux, et toute l'après-midi, il fait de la mandoline. Et il a joué dans les opéras, à Marseille, à Avignon, à Monte-Carlo. Et donc je suis allé le trouver, ça a été mon deuxième contact avec la mandoline à Marseille. Barbizet, le compositeur et pianiste, qui dit Marseille est un enfer peuplé de petits paradis. C'est vrai qu'on arrive dans cette ville qui est mangée par les voitures, sur Belzunce surtout, c'est hyper animé, tout ça. Puis d'un seul coup, on passe un Porsche, où on va au Théâtre de l'Œuvre, par exemple, petit théâtre à l'italienne, où on se retrouve derrière, là, à Puget, les Halles Puget. Le temps s'est arrêté, quoi. On est comme au 19e siècle, au passage de Lorette, un peu plus loin vers la République. C'est ce que j'adore à Marseille, c'est que le temps évolue à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Et Belzunce, c'est frappant pour ça, parce que se côtoie la grande modernité avec des immeubles 17e, 18e, de toute beauté, quoi.
Et raconte-moi tes premières impressions de la rue Tubano.
Ben, j'ai vu une prostituée en train de faire son travail pour 3 gitans, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Avec des rats qui étaient longs comme mon bras. La rue, elle était, la moitié était dépavée et des poubelles partout. J'avais l'impression qu'on était au tiers-monde, quoi. Vraiment, vraiment au tiers-monde. Et en même temps, c'est les récits de marins qu'on raconte, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve, voilà, toutes les femmes sont dehors, hey, salut petit et tout. Et déjà, les femmes à l'époque, elles devaient avoir 70 ans, quoi. Parce que c'était il y a 20 ans, et elles étaient encore là il y a 10 ans. Donc, ouais, c'était chaud les marrons chauds. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'académie de, enfin l'orchestre à plectre de Marseille, ils disaient pas qu'ils étaient à la rue Tubano, ça c'était mal vu. Ils disaient qu'ils étaient rue Mission de France, la rue qui était juste à côté. C'était très drôle. Donc l'impression que j'en ai eue, c'est aussi, c'est pareil, c'est une impression de, ah ouais, mais Marseille, c'est le dépaysement total, quoi. Ça ressemble à nulle part ailleurs, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Belzunce, c'est aussi très différent de Noailles. De l'autre côté de la Canebière, c'est un autre univers complet, quoi. C'est-à-dire que ici, c'est les magasins en gros, c'est les vêtements, c'est les familles. À Belzunce, il n'y a pas d'alcool. À Belzunce, c'est un quartier chinois, juif, musulman. Très peu d'alcool, très peu de bars. Le soir, les gens ils descendent ici, là, sur ma place. Ils mettent des cartons par terre, ils boivent le thé à la menthe. Les gamins, ils jouent au foot. C'est vraiment très, très différent. C'est vraiment... Et j'ai remarqué à Marseille beaucoup cette espèce de vie de village, en fait. On est à Belzunce, on fait partie d'un village à Noailles, on fait partie d'un village à Audibert, on fait partie d'un village à Saint-Mauron, on fait partie aussi d'un village à Lestac, c'est autre chose, quoi. Et c'est... Donc, il y a une forte appartenance au quartier. Et ici, il y a les Belzinciades. Mes enfants, ils sont tous les deux allés aux écoles de Belzunce. La première fois, je ne sais pas si ça t'intéresse, la première fois que je suis venu à Belzunce en tant qu'habitant, puisque maintenant, j'ai acheté ici, je partais d'un quartier un quartier dans le 9e, où les gens, ils attendaient qu'on parte parce qu'on faisait du bruit avec les enfants. Et ici, on est arrivé avec le camion de déménagement, énorme camion qu'on conduisait. Et à un moment donné, on s'est coincé, complètement coincé dans les petites rues de... Et là, il y a deux mecs qui sont arrivés, deux Algériens, qui nous voient. Il nous dit vous ramez, non? Je dis ouais, là, on est bloqué. Il dit vous voulez de l'aide? Bah, il dit ouais, bien sûr. Ok, ils montent, les deux. En deux temps, trois mouvements, ils nous décoincent des trucs, ils nous font passer par les petites rues, ils nous ramènent ici, ils nous aident à décharger le camion. Ils nous disent bienvenue à Belzunce. Voilà. On n'est pas mécontents d'avoir acheté ici, parce qu'il y a une vraie solidarité. Cette solidarité qu'il peut y avoir entre les gens, et cette proximité. Voilà, moi je connais mes voisins, je leur dis bonjour, on va faire des courses, j'aide la mamie qui est en haut, on va boire l'apéro. Voilà, il y a un vrai truc, quoi. Il y a quelque chose de fort entre les gens.
Et quel regard portes-tu du coup sur l'évolution du quartier ?
Un regard très positif, parce que nous, quand on est arrivé, quand on a acheté, en fait, on avait acheté dans la rue du Petit Saint-Jean, juste là, à 50 mètres. Et en fait, la mairie a préempté. Elle a préempté parce que il y avait des arrêtés de péril sur quasiment tous les immeubles. Tous les immeubles étaient fermés de cette place de la Providence. Donc du coup, en fait, on a acheté ici. Au début, c'est presque par dépit, mais finalement, on est vachement content parce que c'est beaucoup plus grand. Et puis c'est un immeuble, en fait, qui avait été bombardé pendant la guerre, reconstruit juste après-guerre. Donc il est encore dans l'esprit des anciens, mais avec quand même, il est beaucoup plus sain que les vieux immeubles du 18e ou 19e qui n'ont jamais été ravalés parce que les types, les gens n'ont pas d'argent ici. Donc du coup, donc en fait, nous, quand on s'est installé ici, on a vu petit à petit, progressivement, là, cet immeuble-là, qui est en face de nous, très bel immeuble, 18e, jaune, cet immeuble-là, il était en ruine, complètement en ruine. Il a été retapé, celui-ci, retapé pour mettre des étudiants, des logements sociaux. De toute façon, il y a des gens qui, comme nous, arrivons, alors nous, on nous appelle comment, je ne sais pas, moi, des petits bourgeois, des bourgeois, des bobos, je ne sais pas, des artistes, bon. Il y en a plusieurs qui sont arrivés dans le quartier, mais il y a une vraie mixité parce que ça fait 100 ans que c'est populaire ici. Donc les gens sont souvent propriétaires, que ce soit les Chinois qui achètent, qui ont leur magasin en gros, ou la communauté juive, ou la communauté arabe, ici, ils sont propriétaires depuis longtemps. Donc du coup, il n'y a pas cette espèce de danger, une vision politique de faire fuir les gens, le peuple, entre guillemets, du centre-ville, parce que de toute façon, ils sont habitants, résidents, propriétaires, et ils y restent. Donc l'évolution, elle s'est faite dans le bon sens, parce que c'est quand même un quartier qui est crado, parce qu'il est un peu délaissé. Donc on a vachement bénéficié de la BMVR, de l'Alcazar. On en a bénéficié d'une part parce qu'ils ont gelé des terrains pour faire par exemple cette place René Sarville, qui donne quand même de l'espace. On espère, normalement c'est prévu, que ce parking il puisse être transformé en un espace public, parce que Belzunce, c'est très minéral. On a bénéficié aussi du tramway, qui s'est arrêté à Belzunce du coup. C'était l'ancien Music Hall, donc c'était un lieu de culture populaire. Et c'est de nouveau un lieu de culture populaire dans le sens où c'est une bibliothèque, il y a des concerts aussi, des conférences. Ça a vraiment beaucoup évolué, sans parler de la rue Tubano qui est carrément café peau neuve, quoi. Café peau neuve, il y a des artistes qui se sont installés. Voilà, le Mémorial de la Marseillaise, le Théâtre de l'œuvre qui est en train de renaître de ses cendres. Donc petit à petit, les lieux un peu mythiques quoi, de ce quartier, ils se sortent un peu du coup de bambou qu'avaient donné les années 70, 80, jusque dans les années 2000. Quoi. Donc ouais, moi je vois une super évolution du quartier. C'est un quartier qui vit tout le temps. Mais le soir, c'est relativement calme, quoi, les gens, puisqu'il n'y a pas de café, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de beuverie. Donc, en fait, à partir de 19h, les magasins sont fermés. Et c'est plutôt cool. Par contre, dès 8h du matin, ça fourmille, quoi. Il y a du monde partout, ça bosse, quoi. C'est un quartier qui travaille, quoi. Mais le symbole un peu de ce coup de pinceau, c'est quand ils ont fait à la place des Capucines, que les habitants de Belzunce s'appellent la place des Feignants, parce qu'historiquement, c'est là où les mecs ils attendaient pour faire la gâche, aller travailler le matin. Et donc, des fois, ils passaient toute la journée à attendre, ils n'avaient pas de boulot, donc on l'appelait la place des Feignants. Et cette place, hein, quand on est arrivé, c'était un parking. C'était un parking sauvage, quoi. Donc ils l'ont repavé, ils ont retapé la fontaine, voilà. Donc c'est la porte, en fait. C'est vachement intéressant parce que c'est la porte de Belzunce. C'est une des portes de Belzunce. Belzunce, c'est finalement pas très grand comme quartier. C'est vraiment un quartier assez homogène dans l'architecture puisqu'il a été monté, je dirais, sous Louis XIV, quoi. Donc il y a beaucoup de très beaux immeubles particuliers. Et puis après, il a très peu bougé, très peu été détruit. Ici c'est, pourquoi il y a un trou là et un trou là ? C'est les Américains qui ont bombardé pendant la guerre. Quand ils essayaient de bombarder Saint-Charles, et il y avait des bombes qui partaient partout et ils sont tombés là, ils ont pété les immeubles. C'est pour ça que ça a été un terrain vague, Belzunce. Moi, je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais jamais acheté à Belzunce. Mais là, je pense qu'on a trouvé notre quartier, quoi. Vraiment. Même pour les gamins, ils font du vélo.
Tu vas y rester.
Ah ouais, on va y rester. Ouais. On va y rester. On aime ça. Il y a une forte appartenance à ce quartier qui est assez petit, mais déjà qui est un quartier historique et un quartier où il s'est passé beaucoup de choses. Quand on regarde l'histoire, rien qu'à la rue Tubano, il y a le jeu de paume où les révolutionnaires ils se retrouvaient pendant la guerre. Et c'est de là qu'ils ont écrit les chants et qu'ils sont partis sur tout le Rhin, qu'ils sont montés pour prendre la Bastille. Donc moi, je crois très fort à la mémoire des lieux. Donc quand je suis rentré dans ce jeu de paume-là, on a les poils qui se hérissent, quoi. C'est pavé, ça n'a pas bougé depuis le XVIIIe siècle, c'est impressionnant. Le théâtre, c'est pareil, le théâtre de l'œuvre, c'est un endroit où il s'est passé plein de choses, c'est évident. Il y a des galeries, le type qui a monté ça, il a fui le régime de Mussolini, c'était un communiste, il planquait des juifs. Donc il s'est passé plein de choses dans ce quartier. Je pense que le cœur vraiment du quartier, jusque dans les années 70, c'était l'Alcazar, c'était le Music Hall. L'Alcazar, c'était un lieu mythique, pas seulement de Marseille, mais carrément de tout, de toute la France, quoi, pour la chanson. Il y a Fernandel, Serville, Alibert, même Johnny, ils ont commencé là. Donc c'était un peu le cœur, quoi. C'était un peu le cœur du truc. Et le quartier a vachement souffert, je pense, dans les années quand ça a été fermé, ça a brûlé à partir des années 80, jusque dans les années 2005. À partir du moment où ils ont remis la BMVR, là on a commencé à retrouver. Les Marseillais se sont réappropriés Belzunce. Tous les Marseillais, parce que Belzunce c'est un quartier emblématique pour tous les Marseillais. Il y a le port grec à 300 mètres, quoi. Et puis voilà, toutes ces petites rues, la rue des Dominicaines, la rue Sainte-Marie, des rues hyper sympas, commerçantes, très orientales, quoi. Rue de la Fare, où on va acheter les brochettes. Donc quoi, ouais, il y a une forte appartenance, je pense, à Belzunce. Les gens se connaissent, ils jouent aux cartes. Il y a une vraie vie dans les cafés. Alors oui, comme je t'ai dit, hein, c'est pas, y a pas beaucoup d'alcool ici, on boit pas beaucoup d'alcool, mais c'est le thé à la menthe, c'est les gâteaux. Ouais, je pense que l'Alcazar est redevenu quand même un peu l'épicentre, a recentré le quartier, elle lui a redonné une consistance qui le fait rayonner dans tout le reste de Marseille.
Belzunce en visage sur Radio Grenouille.
Les scènes aussi à laquelle on peut assister, c'est qu'ici, il y a marqué, on a une jolie place, il y a marqué ballon interdit sur les quatre coins. Le dimanche, c'est le stade de foot de Belzunce, quoi. À tous les jeunes qui viennent taper le. Et nous, c'est excellent. Donc, quand ça commence à jouer un peu bien, on se met au balcon, on regarde, tout le monde qui sort, et on regarde un match en live, quoi. Parce qu'ici, c'est une religion aussi, le foot. Et c'est excellent, quoi. Voilà, Marseille, c'est aussi ça. Il faut l'accepter. Les gros gabians, là, les grosses mouettes qui viennent bouffer, voilà. Le soir, ouais, y a, comme partout à Marseille, il y a les rats qui sortent, ils sont chez eux, c'est tout juste ils fument pas le cigare, quoi. Bon, voilà, ça peut effrayer, hein, les Allemands, les Anglais, ça les effraie, quoi. Les gens qui habitent ici, bon, ben, ils sont un peu habitués. Lui, par exemple, le gamin qui est en train de gueuler, il a oublié ses clés, mais plutôt que de sonner comme tout le monde, il va gueuler pendant 10 minutes pour que sa mère lui envoie les clés, quoi. Voilà, ça fait partie du trip, quoi.
Tu gueules, après tu réfléchis.
D'abord, tu gueules, après tu réfléchis. C'est sûr que du coup, bon, moi je suis musicien, donc je fais entre guillemets du bruit. Parce que quand j'invite des gens, j'ai un piano à la maison, je travaille, je joue toute la journée, je donne des cours, il y a des copains qui viennent, on fait de la musique. Mais en même temps, du coup, nos voisins ils sont bruyants, ils sont ici dans la maison, au-dessus, en dessous. Ça pose pas de problème, quoi. Quand je vais les voir, ils me disent « Ah non, mais la musique, ça va, c'est pas un souci. » Marseille est une ville qui avait déjà des accointances avec l'Italie depuis le XVIIIe siècle. Je prends exemple un compositeur qui s'appelait Dominique Della Maria, qui était très connu en son temps, au XVIIIe, qui a fait des opéras et qui écrivait des sonates pour mandoline, qui a une mandoline quelque part à Marseille, on ne sait pas trop. Donc au XIXe siècle, à partir de 1850, quand les Italiens du Sud qui sont venus chercher du boulot parce qu'ils crevaient la dalle en Naples ou à Sicile, ils sont arrivés à Marseille, ils sont arrivés avec leur mandoline, mais il y avait déjà un terrain. C'était déjà un instrument populaire, un instrument qui était un peu joué, tout ça. Donc ils n'ont fait qu'emboîter le pas, quoi. Et donc ils sont arrivés par wagon et petit à petit, là, il y a une vraie mandolinomania dans toute l'Europe, mais particulièrement en France et particulièrement dans le sud de la France. La mandoline, c'était jouée par 3 millions de Français entre les deux guerres. Donc en fait, à Marseille, ils se sont trouvés, quoi. Il y avait les Siciliens d'un côté, les Napolitains, les Turinois, les machins. Ils ont monté des petits groupes, des petits clubs. Ils se sont un peu mélangés avec les Provençaux. Donc il y avait l'Estudiantina Provençale qui est un orchestre de mandoline, l'orchestre du Mandoline Club de Andoum, le Cercle Mandoliniste qui est un truc très fermé pour les solistes de mandoline, l'Orchestre Aplec de Marseille qui était plus populaire, ouais. Un par quartier, il y en avait partout. Il y avait des milliers de mandolinistes italiens et surtout à partir de 1900. Et quand Fantozzi, lui, il a commencé son activité à Marseille, fin 19e, début 20e, lui, il n'a eu de cesse que de fédérer, de structurer, et de me faire monter le niveau, de montrer que c'est un instrument noble, parce qu'il aurait pu se contenter, comme c'est le cas à Naples, de simplement accompagner les chanteurs, animer les balles, les trucs, non. Il faisait des concerts dans les salons à Belzunce, pour la princesse de Noailles, il a joué devant l'empereur d'Allemagne, c'était un grand soliste, quoi. Et donc du coup, il a crédibilisé l'image à tel point que, et puis il y avait une vraie demande, et qu'au conservatoire de Marseille, où étaient enseignés très peu d'instruments, quoi. Je veux dire, il y avait le piano, le violon, la trompette, le chant lyrique, bon, il y avait assez peu d'instruments. Le maire de l'époque et le conseil municipal ont décidé de créer une classe de mandoline. Ça, c'était une révolution, quoi. Je dirais, jamais personne n'avait créé une classe de mandoline dans une institution. Et si Fantozzi n'était pas mort pendant la guerre, je pense, parce qu'ils avaient d'autres problèmes pendant la guerre que de gérer le conservatoire, je pense que la classe, elle aurait jamais disparu. Donc en fait, moi, je n'ai fait que rallumer la flamme, quoi. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes premiers concerts, j'ai fait des concerts à l'Alcazar, dans certains lieux un peu populaires. J'avais des vieilles dames qui arrivaient en pleurant, me disant « Laurent, regardez, j'ai la mandoline de mon père ou de mon grand-père. Laurent Fantozzi, j'ai des photos, il a aidé. Il y avait vraiment une histoire très forte autour de cet instrument. Tout de suite, quand j'ai commencé à faire des concerts, il y avait tout de suite 200, 300 personnes dans les églises. Alors, c'est sûr, il faut que les concerts soient gratuits à Marseille. Tu mets la place à 5 euros, il n'y a plus personne. Mais quand c'est gratuit, il y a tout le monde qui vient, quoi. Et donc, il y avait vraiment c'était quelque chose bien. De fort. Il y avait quelque chose de fort. Donc voilà, j'ai rallumé la flamme, mais j'ai pas été seul à travailler sur le projet. Je cite très souvent mon ami Alexandre Boulanger, qui était prof au conservatoire en tant que guitare, qui a beaucoup aidé justement à crédibiliser la mandoline auprès de la ville, des institutions et des musiciens, disant voilà, c'est un instrument soliste, il existe depuis le XVIIIe siècle, il y a tous les grands maîtres qui ont écrit pour, mais c'est aussi l'âme de la ville. C'est aussi, ça fait partie, c'est le patrimoine de la ville. Donc, il faut que ça avance ensemble, quoi. Comment je veux arriver à refaire de Marseille la ville mandoline? Déjà, la première chose, c'est la formation. Donc ça, je le fais au conservatoire. Je le fais au conservatoire et donc chaque élève qui est formé dans cette école est un vecteur potentiel de transmission, quoi. Et la deuxième chose, c'est le travail que je fais au sein de l'Académie de mandoline de Marseille, où je suis directeur artistique, que j'enseigne aussi. C'est de créer une équipe pédagogique, c'est-à-dire de former des professeurs qui vont eux-mêmes former des élèves. Donc ça, c'est le deuxième point. Plus il va y avoir de formation, plus il va y avoir d'élèves, plus il va y avoir de mandolinistes. Et après, et c'est la troisième étape de mon travail qui consiste à refaire un pont entre les musiques savantes et les musiques populaires, c'est le théâtre de l'œuvre. C'est-à-dire un lieu de culture au centre d'un quartier populaire. Parce qu'en fait, pour moi, ça veut tout et rien dire. La culture populaire, c'est juste la culture dans des lieux populaires. C'est plus ça. La musique populaire, la musique arabo-andalouse ou le flamenco, c'est des musiques qui se transmettent de voix par l'oralité et qui évoluent très peu. Alors que les musiques qu'on dit savantes sont des musiques où le langage a énormément évolué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution d'un langage, de partir de choses simples et d'arriver à les développer, à les transcender, à les porter au plus haut de la pensée humaine. Voilà. Donc rencontrer des musiques, absolument. Rencontrer un joueur de oud, rencontrer des genres de joueurs de hip-hop, rencontrer un chanteur populaire, absolument, absolument. Mais pas que. Ramener la musique classique, qu'on dit classique au sens générique du terme, pour tout le monde, quoi, la donner à tous. Si je pouvais si je pouvais avoir une scène, une bonne sono et la jouer dans la rue, ce serait pas. Mais là, c'est parfait. On a un écrin fantastique. On a le théâtre de l'œuvre, une scène, 200 places. C'est formidable pour le son, parce qu'un musicien classique, il aime produire son propre son. Il aime pas trafiquer avec des amplis, des trucs, jouer dans les stades de foot. C'est pas... Un musicien, il travaille sur son son toute la journée. Il aime le restituer dans son essence même. Donc, c'est la troisième étape de mon travail, c'est d'arriver à me rapprocher du théâtre, de l'œuvre, et à proposer une programmation musicale de haute qualité, vraiment de haute qualité, et notamment de faire un festival début juillet. On est en train d'y travailler avec les gens du théâtre, un festival de très haut niveau qui accueille des musiciens venus du monde entier, ici à Belzunce, ce théâtre, et de faire de la musique. Donc voilà, ville mandoline par la formation, ville mandoline par les musiques populaires, oui, mais ville mandoline aussi pour défendre notre culture. J'ai rien contre la musique brésilienne, j'adore la musique brésilienne, j'ai des copains qui m'ont fait découvrir le chour, j'adore ça, j'adore le bluegrass, j'adore le jazz, mais notre musique, notre culture européenne, je veux dire, la musique de Bach, les Beatles, c'est à nous, c'est notre culture, et c'est celle-là qu'il faut défendre. Enfin, en tout cas, c'est celle-là que moi je veux défendre.
Une méditerranéenne aussi avec la mandoline.
Absolument, 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 et des fois j'ai ce problème avec certains musiciens de musique populaire, excellentissimes, des grands, grands musiciens, je les accompagne, je joue avec eux, je vais vers eux, je peux rentrer dans leur univers, parce que j'ai les clés pour ça, techniques, même si je ne joue pas aussi bien qu'eux, j'ai les clés. Mais eux, non, ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les clés de la mienne. Il y a une frustration qui fait que, du coup, toi, tu as envie de leur donner aussi, leur dire, voilà, mais on pourrait faire ça. Dans ton rap, là, on pourrait faire une base de chaconne. Ce serait génial, ce serait révolutionnaire, un truc qui descend, machin, tac. Là, on pourrait changer, on pourrait moduler et tout, ouais, mais en fait, eux, ça leur dit rien. Ils savent pas ce que c'est, ils peuvent pas se projeter. Et donc, du coup, ils restent assez conformistes dans leur musique. Voilà, donc l'idée c'est aussi ça, c'est de montrer que la musique, la grande musique pour tout le monde, c'est ça l'idée. Et le théâtre va certainement m'aider dans cette démarche. Parce que moi je joue dans le monde entier, mais je vis ici, et j'ai envie de jouer pour les gens qui habitent ici. Je le fais d'ailleurs, hein. Je suis allé jouer plusieurs fois déjà, j'ai fait plusieurs choses, plusieurs projets. Pour le théâtre de l'œuvre, pour Belzin, j'ai joué dans les écoles de mes gamins. Là, je vais faire une tournée dans tous les zéniths de France. Et puis, de jouer dans un café à Belzin, ça ne me déplaît pas, au contraire. Une chanson qui est beaucoup aimée par les gens de Belzin, c'est... Bambino, mais en fait c'est une vieille chanson napolitaine qui s'appelle Gualion. On l'a chantée ici, les gens ils étaient fous, ils chantaient avec nous, ils tapaient des mains. Ouais, c'est de la musique populaire parce qu'elle est très 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 connue aussi en Algérie cette chanson. Bon, on a tous en tête maintenant la version de Dujardin dans OSS 117. Mais c'est une chanson populaire méditerranéenne quoi. Voilà, j'aurais pu jouer des choses plus classiques mais tu passeras mes disques.
C'était Belzins en visage, une émission préparée avec la complicité de Tom Crebassa et Sarah Schreiber, avec Sébastien Gély à la réalisation. Vous pouvez retrouver le podcast de ce récit sur le site radiogrenouille.com. Belle journée sur les 3-8.